Je reprends le dernier verset du premier texte lu par Jean-Pierre, chapitre 21, verset 19. Est-ce pour les fils du méchant, donc les fils du Satan, que Dieu réserve son châtiment? La question centrale du livre de Job est donc « Que devient ma foi face à l'injustice et au mal ?» Un petit rappel concernant la trame de l'histoire du livre de Job. Job, riche propriétaire éleveur, vit heureux et applique une piété rituelle, méticuleuse. Chapitre 1, verset 5. Il se levait de grand matin et offrait des holocaustes pour chacun de ses fils. Yahvé vante les mérites de son serviteur Job à Satan. Alors Satan parie avec Dieu que la piété de Job disparaîtrait si Dieu cessait de le protéger. Dieu accepte le pari. Oui, Dieu accepte le pari. Et Satan s'empare donc de la fortune de Job. Il perd ses troupeaux, ses enfants meurent, mais Job continue tout de même à bénir Dieu. Alors Satan revient à la charge et demande à Dieu l'autorisation de rendre Job malade. On va de plus en plus loin. Dieu accepte à nouveau. Mais si. Je cite chapitre 2, verset 6. « Et Yahvé dit au Satan, le voici en ta main, en parlant de Job, le voici en ta main, garde-lui seulement la vie. » Et Satan couvre Job d'ulcères. Job continue de se plaindre, mais ne pose pas les vraies questions. Trois amis arrivent pour consoler Job. En fait, ils ne font qu'ajouter à sa misère morale. Incapables qu'ils sont à délivrer autre chose que des réponses toutes faites face à l'injustice divine. Aucune trace de sagesse véritable dans leurs propos, de la théologie de bazar pour répondre aux vraies questions de Job. Et la question demeure. Je cite chapitre 28, verset 12. « Et la sagesse, d'où sort-elle? Quel est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en sait le chemin et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. » C'est lourd. Il s'agit bien là du questionnement sur la foi profonde qui permet de répondre aux incohérences apparentes de la création. Finalement, Job prie Dieu et entend ses réponses. Il sort grandi de l'épreuve, spirituellement et matériellement. Je cite chapitre 42, verset 12. « Et Yahvé bénit le nouvel état de Job plus que l'ancien. Il eut 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. » Bon, tout se termine bien. La question centrale posée par le livre de Job est donc bien la suivante. Dans les épreuves majeures, que devient notre foi ? Car c'est dans l'épreuve et dans l'épreuve seulement que nous mesurons notre foi. Il existe un proverbe que les gens de mer connaissent bien, pour ceux qui naviguent, qui dit « Par beau temps, ma petite sœur navigue ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand tout est facile, le jugement et le courage d'une enfant suffisent à maintenir le cap. Mais c'est dans la tempête qu'on juge le capitaine. La souffrance physique intense, l'immense chagrin de la disparition d'un jeune être cher, disparu bien trop tôt. Un assassinat sauvage, un massacre terroriste, un génocide. Dans tous les cas, nous vivons un mélange d'impuissance et de culpabilité qui fait naître un profond sentiment d'injustice et nous renvoie à Dieu, face à face. Colère et révolte sont à l'ordre du jour. Pourquoi lui? Pourquoi si tôt? Pourquoi eux? Et au final, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Si le traumatisme est trop profond, alors notre colère se fige. Il n'y a plus de place pour les sentiments, ni les émotions. Et nous sommes sidérés. C'est l'état de choc et l'incompréhension totale. Nous sommes face à une absence totale de sens. Et ce vide-là nous renvoie à notre foi. Pourquoi Dieu laisse-t-il exister une chose aussi abominable? C'est l'émergence du désespoir. C'est l'émergence du mal absolu. Alors, que faire lorsque notre routine de pensée est prise en défaut, lorsque la réponse ne peut plus venir de ce qu'on vit au quotidien? Pour un athée, la réponse standard arrive assez rapidement. De toute évidence, les coupables, ce sont les hommes. Et ceux qui commettent ces atrocités sont des dingues. Et pour peu qu'on en discute avec un athée, nous sachant croyants, la remarque fuse très vite. Eh bien, que fait-on Dieu devant tant de violence et devant tant d'injustice? C'est traditionnel et c'est même la loi du genre, ce genre de remarque. Mais pour nous qui pensons avoir la foi, c'est la réapparition de la sempiternelle question. Si Dieu est, et qu'il est omnipotent, quelle raison le pousse ainsi à laisser perdurer le mal? Depuis l'aube de l'humanité, chaque génération rejoue intégralement la même pièce. On passe du massacre des innocents après la naissance de Jésus, à la Shoah il y a 75 ans, et voici le terrorisme aveugle d'aujourd'hui. Avec le recul, on ne peut pas vraiment penser que la tendance soit à l'amélioration. Non, pas vraiment. C'est donc bien que le mal réside aussi en Dieu. Il faut s'y résoudre. Alors, que nous apporte le livre de Job dans notre recherche de sens face au mal? En réponse à la cruauté extrême de Dieu à son encontre, apparemment gratuite et sans pitié, l'homme, Job, ne peut faire autrement que de douter. Ce doute est un dialogue avec lui-même et avec son Créateur, face à l'incompréhensible comportement d'un Dieu jugé capricieux et imprévisible. Dans ce combat intérieur, l'homme, Job, se décape, épreuve après épreuve, pour aller vers la simplicité et vers l'humilité. Dans le livre de Job, outre celui de la souffrance faite aux innocents, trois grands thèmes sont abordés. L'impuissance de l'homme devant les coups portés par le côté sombre de son Créateur, l'injustice d'une souffrance sans but, sans bénéficiaire, donc privée de sens, délivrée par un Dieu omnipotent. La place de l'homme trouvée dans son dialogue avec l'Éternel. Et pour bien illustrer le propos, le texte utilise chaque protagoniste à contre-emploi. Job le pieux, selon l'expression bien connue, se demande ce qu'il a bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça. Dieu, de son côté, fait preuve d'une grande perversité en s'amusant à parier sur la constance de la foi de Job en dépit des épreuves de plus en plus cruelles. Dieu révèle alors un côté sombre et redoutable d'un enfant tout-puissant et capricieux qui contemple sa créature se débattre sous ses yeux. De leur côté, les amis de Job sont des caricatures, des alliés objectifs du Satan, sous couvert d'une apparente amitié. Aucune réelle compassion chez eux, aucune main tendue. Voici le premier, dont le bon sens culpabilisant pousse Job à chercher quelle faute épouvantable il aurait pu commettre pour mériter un sort aussi affreux. Ça ne peut pas être la faute de Dieu qui est toujours juste. Je cite Eliphaz. Eliphaz est le premier de ses amis. Chapitre 4, versets 6 et 7. Car le malheur ne sort pas de la poussière et du sol ne germe pas la douleur. C'est l'homme qui engendre la peine. Et au verset 17, il en remet une couche, je cite. Donc, heureux l'homme que m'origène Eloa. Bon, c'est-à-dire Dieu, heureux l'homme que Dieu punit. Hein. Le deuxième est un bien-pensant conformiste. Je cite Bildad, Bildad est le deuxième de ses amis, chapitre 8, verset 6. Si tu es pur et droit, alors il veillera sur toi et restaurera ta demeure de justice. Le troisième est une sorte de bedeau niais perdu dans des litanies pieuses. Je cite Sophar, le troisième de ses amis, chapitre 11, extrait des versets 13 à 19. Si ton cœur est fidèle, tu lèveras ton visage sans souillure, tu oublieras tes maux, tu seras en sécurité, et beaucoup caresseront ton visage. Au total, une fine équipe dont le texte se sert pour récapituler les thèses les plus banales de l'homme face à l'épreuve. Je cite chapitre 15, verset 20 et chapitre 8, verset 20 et 21. C'est sur le méchant que s'abat le malheur, mais sois pieux et Dieu te donnera rire et bonheur. Et pour finir, quand Job les met en demeure de justifier toutes ses allégations, tous les trois sont incapables de faire autre chose que de finir par convenir de la culpabilité de Dieu. Consternant. D'ailleurs, Job finira par rejeter l'opinion de ses prétendus amis, et c'est par son propre dialogue intérieur avec Dieu qu'il retrouvera du sens, ainsi que sa place dans le monde. Dans cette affaire, finalement, seul le Satan apparaît complètement innocent et parfaitement dans son rôle. En fait, qui est le véritable tentateur de la foi de Job ? Le Satan qui est l'instrument, ou Dieu, que le texte décrit comme un complice actif de la torture d'un être humain ? Histoire de voir un peu ce qui se passe. Et quand l'Éternel accepte le pari de Satan, qui lui remet tous les biens de Job, je cite, chapitre 1, verset 12, « Voici tout ce qui est à lui dans ta main. » Quelle justice nous montre-t-il alors ? L'actualité terroriste nous confronte immédiatement à la violence et à la pertinence de ces thèmes. Et bien sûr, la question se pose d'un monde qui n'a pas de sens, dominé par le chaos. Dieu se préoccupe-t-il de sa création ou n'est-il qu'un lanceur de dés, indifférent ? Avec ce que nous vivons de tourments et de souffrances, un Dieu unique et tout-puissant peut-il être considéré comme juste ? En fait, comme notre développement en Dieu est incomplet, nous ne considérons les événements qu'à l'aune de notre propre humanité. Alors, notre jugement nous fait souvent défaut pour discerner ce qui est réellement en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Et face à l'impossible, face à ce qui ne peut absolument pas dépendre de nous, nous traînons malgré tout ce sentiment de culpabilité comme un boulet. J'aurais dû le faire, j'aurais pu le faire, c'est inadmissible que ça arrive. Le vrai cadeau empoisonné que Satan fit à Ève n'était pas celui de la conscience, mais bien celui d'une capacité de jugement et de compréhension limitée. C'est ce qui nous empêche de grandir en Dieu. Job aurait pu finir par pousser la révolte jusqu'à haïr Dieu et s'en détourner. Il existe d'ailleurs une traduction du texte dans laquelle Job ne bénit pas Dieu à la suite de toutes ses épreuves, mais au contraire le maudit. Ainsi, Job aurait très bien pu verser dans la rancœur quant à ses amis et rejeter Dieu. Or, rien de tout cela ne s'est produit. Il retrouve le chemin de Dieu, pardonne à ses amis, et finit même par intercéder en leur faveur auprès du Tout-Puissant pour qu'eux aussi retrouvent la voie du vrai dialogue avec l'Éternel. Je cite 42, 7 à 9. Yahvé dit « Job a bien parlé ». Qu'il intercède en faveur de ses amis qui ont erré. Alors, quelle est donc cette force suffisamment puissante qui lui a épargné de rejeter Dieu et les hommes ? C'est la foi, bien sûr. C'est grâce à elle que Job a maintenu son dialogue avec l'Éternel. C'est elle qui a ouvert son cœur à la sagesse divine. Souvenons-nous du deuxième texte lu par Jean-Pierre. Comme la foi de Job a déjà laissé Dieu commencer à le transformer, il pose désormais la question correctement. Je cite 28-20. Mais la sagesse, d'où vient-elle ? Et la réponse lui parvient tout naturellement, cette fois tout naturellement. Je suis compétent pour défendre ma création contre le chaos qui la menace. Face au mal, voici le sens du monde retrouvé. La morale est rétablie, car Job sait que sa place est à l'écoute de l'Éternel et que la ligne d'action est parfaitement définie, puisqu'il comprend qu'il doit faire ce qui est à sa portée d'être humain. Du mieux possible. C'est donc bien le discernement qui nous permet un véritable dialogue avec Dieu. Face à l'injustice et face à l'épreuve, c'est dans ce dialogue que nous retrouvons le sens véritable de sa création. Et ce sens-là est bien le contraire du chaos. Le mal et la douleur font partie de l'existence des hommes. Ils n'ont aucun sens par eux-mêmes, et moins encore lorsqu'ils sont issus de causes auxquelles nous ne pouvons rien. Souffrir sans cause ni but nous plonge dans l'incompréhension totale. Ce qui fait vaciller notre foi, c'est poser la question de savoir si la souffrance a un sens, alors même que nous n'y pouvons rien et qu'elle n'a en apparence aucun but, aucun bénéficiaire. Et puisque l'Éternel nous a fait ce don si précieux en mettant un peu de sa lumière en nous, c'est en faisant grandir cette lumière, notre compréhension, que nous combattons le vide laissé par le Satan. C'est alors seulement que notre jugement nous permet d'accéder au sens du mal, ce mal qui contribue à structurer le monde. En fait, sans le mal, le bien n'existe pas. Tout serait indéterminé. Mais si Dieu a voulu le mal pour donner du sens à sa création, il nous a aussi pourvu des armes pour le combattre, pour que nous puissions faire face au mal résolument. Bien sûr que nous avons peur de souffrir. Bien sûr que nous avons peur de mourir. Plus cette peur est forte, plus elle nous renvoie à l'impuissance de notre enfance face au monde. Alors sans nous en apercevoir, notre peur nous replace dans une attitude de volonté infantile de toute puissance. Pour nous sécuriser, nous générons un désir profond de contrôler tout ce qui nous entoure. Et c'est une illusion. Tout comme le sable, ce que nous pensons étreindre nous fuit d'autant plus vite que nous le serrons fort. C'est un cercle vicieux. Nous avons peur. Et nous nous raidissons. Ce spasme ne fait qu'accentuer notre angoisse. Pire encore, il alimente notre sentiment de culpabilité puisqu'il est totalement inefficace. C'est de ma faute. J'aurais dû, j'aurais pu, si seulement, j'en ai pas fait assez. En réalité, c'est dans une attitude mentale inverse que nous trouvons le réconfort. Dans la prise de conscience de la prière, nous pouvons lâcher prise. Notre dialogue intime avec Dieu nous fait progressivement comprendre que décidément, non, tout n'est pas de notre ressort. Et puis surtout, nous apprenons à accepter notre propre impuissance. Et Job ne fait pas autre chose. Il combat le chaos par la prière. C'est elle qui lui procure la justesse de jugement. Dans sa prière, après une phase de révolte puis de provocation, il noue un véritable dialogue avec Dieu. Il peut enfin entendre les réponses de la sagesse divine et trouve sa place d'humain dans la création. Je cite le livre extrait des chapitres 38 à 42. Yahvé dit « Je suis compétent pour créer ce qui est bon et ce qui échappe à la compréhension et la mainmise de l'homme. » Job dit, « Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. » Chapitre 40, versets 4 et 5, c'est-à-dire, « Je me tais pour mieux t'écouter. » Yahvé, « Je suis compétent pour défendre ma création contre le chaos qui la menace. » Job, « Je renonce à la théologie et je suis consolé. » Par théologie, on entend le dogme et les rites superficiels, et non pas le vrai dialogue avec Dieu. Job nous est montré en exemple parce qu'il subit une profonde transformation dans l'épreuve. Il grandit en Dieu et abandonne la vision égocentrée de sa foi. Pourquoi moi ? Maudit le jour où je suis né. Dans l'épreuve, il acquiert un jugement plus pertinent sur lui-même et les événements. Or, cheminer vers ce discernement véritable nécessite une disposition d'esprit un peu particulière. Cette orientation spirituelle porte un nom. Elle s'appelle l'humilité. Il ne s'agit pas de l'humilité des apparences, ni de celle du comportement. Il s'agit de l'humilité du cœur. C'est elle qui nous permet de mieux voir l'œuvre de Dieu et la place de l'homme dans sa création. Le véritable tourment de Job ne réside pas dans ses malheurs ni dans ses souffrances physiques. Le vide de sens a pour origine l'orgueil qui le conduit à penser que le monde doive se conformer à ses aspirations et pour peu que la création doive aussi un peu lui rendre des comptes. Job, le petit démiurge, c'est parce qu'il est comme un enfant qu'il se croit tout puissant, qu'il perçoit Dieu comme injuste et capricieux. C'est aussi cela que nous dit le texte. Tu auras devant tes yeux le visage de Dieu que tu mérites. Dès que Job ouvre les yeux sur sa vraie place, le malin est écarté et l'ordre est rétabli. Alors me direz-vous, faut-il accepter tout ce que le destin nous présente? Pas du tout. La morale du livre de Job n'est absolument pas passive. Dans l'épreuve, Job est actif. Il se recentre sur l'essentiel, ayant compris qu'il n'était ni responsable, ni coupable de ce qui ne dépendait pas de lui. Il peut alors se tourner vers Dieu et lui demander de lui donner la force de réaliser ce qui est en son pouvoir d'être humain. Je cite chapitre 42, verset 4. « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Job accède à une foi différente, dépouillée et lumineuse. Il grandit même au point que l'Éternel le place désormais dans un rôle d'intercesseur pour ses frères humains. Son tout nouveau rayonnement intérieur déborde vers les autres. Je cite 42:7-9, Yahvé dit, Job a bien parlé, qu'il intercède en faveur de ses amis qui ont erré. À l'image de Job, dont je ne souhaite le destin à aucun d'entre vous, ni à moi-même, pour dépasser les épreuves et leur donner un sens, il n'y a qu'une solution. Il faut en sortir par le haut, c'est-à-dire s'élever vers Dieu. Le livre de Job est un guide de sagesse. Par son dialogue avec le Père, par sa souffrance, par une vraie compréhension de sa place sur terre, par la remise en cause de la loi, et plus encore par son rôle d'intercesseur pour les hommes auprès de Dieu, Job annonce dignement la venue de Jésus. La plupart des enseignements de la vie du Sauveur sont présents dans son livre. Alors que ce texte puisse nous servir de fil conducteur dans l'épreuve, et que nous sachions au quotidien mettre en pratique la maxime de cet empereur romain du IIe siècle, « Puisque je ne puis agir sur ce qui ne relève pas de moi, que mon jugement soit suffisamment accompli pour me faire clairement distinguer ce qui est possible de ce qui n'est pas possible, et que Dieu me donne la force d'accomplir ce qui est possible. » Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Marc Aurèle, fidèle fervent de la philosophie stoïcienne, réel exemple de discernement et d'humanité. Alors bien sûr, le chemin est parsemé d'embûches. La rancœur est une option tellement tentante à court terme et la culpabilité tellement naturelle. Mais finalement, c'est assez simple. Ora et labora, prie et travaille. Nul besoin de se faire moine bénédictin pour suivre la consigne. Il suffit de prier pour rester en contact intime avec l'Éternel et de travailler dignement à la tâche humaine qui nous est possible. Laissons l'incompréhensible et l'impossible à Dieu. Quoi ? Nous sommes choqués et crions à l'injustice ? Mais pourquoi la création devrait-elle nous rendre des comptes ? Qui sommes-nous pour exiger cela ? Acquittons-nous noblement de ce qui nous revient, surtout si c'est difficile. Par la prière, nourrissons notre dialogue intérieur avec Dieu. C'est ce dialogue qui nous fera grandir vers l'Éternel. Oculos habent et non videbunt. Ils ont des yeux, mais ils ne verront pas. C'est avec le cœur que l'on comprend, pas avec notre logique trop humaine. Écoutons Job nous le dire et nous le redire à la fin du livre, chapitre 42, versets 1 à 6. Job répondit au Seigneur. Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ainsi, j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute, je te prie, moi je te parlerai, je t'interrogerai, et toi tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, c'est mon œil qui t'a vu. Amen.